Et voilà, deuxième partie dans De Noir. Et comme je l'ai annoncé en première partie d'émission, nous avons le grand plaisir d'accueillir un nouveau chroniqueur. Donc, Yann Espouse, bonsoir.
Bonsoir Corinne.
C'est très gentil à vous de nous rejoindre. On vous suit de loin depuis longtemps avec votre excellent blog qui s'appelle Encore du Noir. Donc j'incite tous les auditeurs à aller chercher de bons conseils. Mais vous allez tout de suite nous parler d'un livre qui vous a beaucoup plu. Je crois un recueil de nouvelles.
Oui, tout à fait. Il s'agit d'Effets indésirables de Larry Foundation, qui est donc un recueil de fragments, on pourrait dire. Larry Foundation, c'est un écrivain et un travailleur social qui vit à Los Angeles. Il est déjà l'auteur précédemment chez Fayard de 3 recueils. Et donc ce quatrième là sort aux éditions Tusitala, qui sont de jeunes éditions qui font un travail, ma foi, excellent et qui ont eu l'excellente idée de le reprendre.
Tout à fait, et c'est un beau pari en plus.
C'est le moins qu'on puisse dire, effectivement, il fallait aller le chercher, le récupérer, en sachant en plus que la nouvelle n'est pas toujours le format préféré des Français. Mais là, en l'occurrence, donc on a tout un recueil de fragments extrêmement percutants. Larry Foundation, comme ça, dans ce livre, se glisse dans la peau de tout un tas de personnages. On va croiser des SDF, des femmes et des hommes célibataires qui recherchent de la compagnie ou du sexe, des drogués, des travailleurs pauvres, des petits bourgeois, des déséquilibrés, des voleurs qui se lancent dans un trafic de basket pour survivre, des retraités. Et comme ça, donc, on voit se dessiner toute une population qui nous est souvent invisible de Los Angeles.
Tout au moins qu'on décrit très peu dans les romans.
Tout à fait, complètement. Et la High Foundation le fait avec énormément de finesse. Par ailleurs, il réussit à se montrer tour à tour extrêmement émouvant ou ironique. Et donc on suit toutes ces trajectoires qui sont heurtées à travers des flashs.
Oui, comme vous avez dit, on dit que c'est un recueil de nouvelles, mais finalement, c'est vraiment des shortcuts très 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 courts. La plupart font une page, enfin même pas recto verso.
Ah oui, oui, ça peut faire 3 lignes, ça peut faire...
Un poème ?
Un poème, effectivement, ça peut durer un peu plus longtemps, mais effectivement, c'est toujours très percutant.
C'est impressionnant comme il arrive à nous attacher à 1, 2, 3 personnages en une trentaine de lignes.
Oui, il a cette capacité avec une économie de mots à décrire une personne au plus profond, à dresser un portrait comme ça, et derrière, bien sûr, en filigrane, tout un portrait de cette ville.
Alors en plus, là, c'est vraiment 10 recueils de nouvelles, parce que moi, je me souviens, les premiers étaient sortis chez Fayard, en particulier sur les nerfs, et c'est vrai qu'au départ, ça avait quand même beaucoup dérouté les gens, parce que c'était annoncé comme un roman. Et puis il y avait une suite quand même dans les personnages et tout, alors que là on a vraiment voilà, c'est complètement indépendant, on peut le grappiller en quelque sorte.
Oui, complètement, on peut le prendre un peu au hasard, l'ouvrir et se laisser entraîner dans un portrait ou deux, puis le reprendre un peu plus tard, ou si on est vraiment gourmand, tout faire d'affilée. Ça va relativement vite, hein, puisque ça fait, je pense...
188 pages. Je l'ai fini hier soir. oui, c'est, et puis voilà, il y a beaucoup de feuilles donc qui sont sur une nouvelle, et c'est vrai que le mot fragment est très très bien choisi. Pour vous, quel a été le thème principal? Qu'on en discute un petit peu. Dans il y a évidemment cette Amérique de la marge.
Oui, c'est je pense que, et dans cette Amérique de la marge, c'est des gens qui sont un peu à la recherche d'eux-mêmes et à la recherche du regard des autres. C'est vraiment un peuple de l'ombre.
Oui, moi j'ai un petit peu cette impression. J'ai cette impression d'un livre sur la solitude, parce que voilà, ils sont tous seuls, ils cherchent tous quelque chose, mais ils sont seuls.
Oui, complètement. Et c'est d'ailleurs la nouvelle qui ouvre le recueil de ce côté-là est formidable, hein, puisque c'est un homme qui se retrouve dans un bar où il est venu se battre. Et finalement, il va créer un lien avec les personnes de ce bar qui se retrouvent prises en otage par lui. Et syndrome de Stockholm se retourne contre les policiers avec lui pendant qu'il demande une des clientes en mariage.
Ah oui, c'est moi la nouvelle qui m'a le plus émue, mais on va pas évidemment pas raconter l'histoire. C'est il y a un enfant d'un côté et un chien de l'autre.
Oui.
Et ce qui m'a impressionné, c'est la façon dont Larry Foundation manie la chute. Parce que, comme on l'a dit, c'est des fragments et ça nous tombe dessus des fois à la fin.
Oui, complètement. Il a des chutes qui peuvent être très violentes parfois, et d'autres qui laissent entrevoir un peu d'espoir quand même.
Un petit peu.
Un tout petit peu.
Et c'est vrai, vous avez dit, il y a cette histoire de... Il y a aussi des petits bourgeois, presque des gens qui sont, entre guillemets, on va dire, des gens qui sont défenseurs des droits civiques, qui, bon, on va dire, entre guillemets, un petit peu de gauche, qui ont quelques convictions, et pourtant ils sont aussi démunis.
Ils sont tout aussi démunis, puis ils sont démunis par le monde dans lequel ils vivent. Des fois, ils se retrouvent... je pense que dans ce livre aussi, on voit... la gentrification, en fait. Mmh. La gentrification des quartiers périphériques et une cohabitation parfois difficile entre les populations aussi.
Oui, bah avec tous les blancs qui sont restés, comme il dit, à un moment donné, les émigrés, et puis de plus en plus de SDF. Et là, ils savent pas quoi faire, en fait.
Oui, complètement. On a des personnages en déshérence.
Alors, ce qu'on n'a peut-être pas dit, ou tout au moins je ne l'ai pas noté, c'est qu'on n'a pas parlé, on n'a pas dit le nom du traducteur, je crois.
Ah, tout à fait. Le traducteur qui fait un travail remarquable sur cet ouvrage s'appelle Romain Guillou.
Voilà, parce que... Voilà, alors les éditions Tusitala, je crois que... Enfin, moi, c'est le seul livre que j'ai lu d'eux. Je ne sais pas si vous en avez lu d'autres.
Oui, tout à fait. Ils ont notamment ils sont employés à publier des livres qui, pour certains, n'avaient jamais été traduits en français et qui étaient assez anciens. Donc, il y a eu notamment les mémoires de l'avocat de Hunter Thompson, qui était un des leaders du mouvement Chicano dans les années 70 à Los Angeles, qui sont vraiment impressionnantes. Ça s'appelle « Mémoire d'un bison ». Ils ont publié aussi l'an dernier un roman qui avait eu un énorme succès aux États-Unis dans les années 70 et qui n'avait jamais été traduit en France, qui s'appelle Le voleur de voiture, dont j'ai totalement oublié là, en ce moment le nom de l'auteur.
On peut aller voir sur le site des éditions Tusitala, il y a toutes les couvertures, toutes les explications.
Oui,
donc on verra nos auditeurs. Une très belle charte graphique, la couverture est très belle, le logo très joli aussi. En fait, Tusitala, c'est une araignée et il y a un logo très joli dans le coin. Le traducteur est vraiment mis en exergue et ça, c'est bien. Il est sur la couverture, le traducteur, et ça, c'est vraiment une belle chose. Donc, on a vraiment un bel objet. Vraiment, je trouve que ce recueil de fragments, comme vous avez dit, c'est vraiment quelque chose qui accroche et qui est un très beau livre. Et il faut soutenir ces éditions parce qu'ils font un travail remarquable.
Je crois qu'on peut le dire. Hein. Ils sortent très peu de livres, hein. C'est 2-3 par an. Mais chacun est vraiment travaillé avec énormément d'attention, que ce soit la couverture, la qualité du papier, la qualité de la traduction, bien sûr. Ils sont toujours excellents.
Et la mise en page, moi, je sais que j'ai apprécié aussi ces fragments, ces petites nouvelles. La césure à l'autre page, elle n'est pas au hasard, quoi. C'est toujours pour nous amener à une surprise. Il y a la mise en page qui est très belle. Enfin, vraiment un très, très beau travail. Mais avant tout... Évidemment, avant tout, était l'auteur. Et il faut dire que Larry Foundation, pour nous décrire ces petits morceaux, c'est quand même quelque chose.
Complètement.
Voilà, donc on va redire le titre.
Oui, alors ça s'appelle « Effets indésirables ».
L'auteur ?
Larry Foundation.
Et puis donc, c'est aux éditions Tusitala. Et par contre, je vous laisse redire le nom du traducteur. J'avoue que je ne l'ai pas noté.
Donc tout cela est traduit. traduit par Romain Guillou. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup, Yann. Et puis, on espère à très vite.
Et donc, avant, puisqu'en fait, on parlait de fragments...
Ah, j'ai oublié la musique,
voilà,
désolé.
Yann a aussi choisi le morceau de musique qui va illustrer un peu ce recueil de Larry Foundation. Et c'est aussi presque un fragment, tellement c'est court.
Oui, il s'agit d'un morceau d'Agent Orange, qui est un groupe justement californien de punk du début des années 1980. Et cette chanson s'appelle Everything Turns Grey. Et il me semblait que ça illustrait parfaitement les fragments de Larry Foundation, parce que c'est quelque chose, c'est un morceau très pessimiste sur la vie, sur la ville dans laquelle ils vivent. Et il me semblait qu'effectivement, ça entrait en résonance avec les effets indésirables de Larry Foundation.
Eh bien, donc, on va écouter ce morceau. Donc, merci beaucoup, Yann, et puis j'espère à bientôt.
Merci. Au revoir. À vous, à bientôt.
Donc, Agent Orange.
Voilà, c'était donc Agent Orange.
Voilà, et le morceau s'appelait Everything Turns Grey. Tout devient gris.
Ce qui est le cas peut-être aussi dans le livre dont tu vas nous parler.
Ah oui, c'est du gris foncé alors. Le roman, c'est un roman de Alex Taylor qui s'appelle Le Verger de Marbre, qui est publié aux éditions Gallmeister, donc dans la collection Néo-Noir, et qui est traduit par Anatole Ponce. Alors, on va tout de suite éliminer un doute pour les auditeurs qui penseraient que ce Alex Taylor dont on va parler, c'est celui qui, l'anglais à l'accent british qu'on entendait sur France Inter pendant longtemps. Eh ben non, c'est pas lui. C'est un Américain. D'ailleurs, de toute façon, chez Gallmeister, tous les auteurs sont Américains. On l'a déjà dit, je pense. Alex Taylor, lui, c'est un homme du Kentucky. Vous savez, c'est là où on fabrique une fameuse boisson à consommer avec modération. Et c'est d'ailleurs, en fait, au Kentucky, sur les berges de la Gasping River, que le drame de ce roman va se nouer. C'est Bim Schittmeier. C'est un jeune homme de 17 ans. Et il vit avec son père et sa mère. Et en fait, il assure ce soir-là les traversées du petit bac familial sur la rivière, la Gasping River. Et il va tuer le passager qui vient de l'agresser. Et donc, il va voir son père. Son père constate que celui qui est mort, là, c'est le fils de Lot Duncan, qui est le parrain local. Et c'est un parrain plutôt violent, irritable et aussi malade. Et donc, du coup, il conseille à son fils de fuir loin, loin ailleurs. Mais quand on a vécu toute sa vie près de la Gasping River, fuir... Quand on est au milieu de nulle part, même si on n'est pas vraiment sérieux quand on a 17 ans, comme dirait le poète, fuir, c'est pas forcément la solution. Mais Bim Schittmeier, est-ce qu'il va être capable de fuir, de rester, d'affronter Lot Duncan? Surtout qu'a priori, on se rend compte assez rapidement que, en fait, Lot Duncan, il veut pas le tuer. Mais il veut l'attraper, mais il veut pas le tuer. Et là, on va rentrer dans un roman comme on les aime, une plongée en enfer, comme un peu ceux de Larry Brown, Chris Offutt ou Frank Bill plus récemment. Ces romans ruraux états-uniens, américains.
Nature Writing, de Nature pour, le writing titre, voilà. Pour le titre d'une des autres collections de Gallmeister.
Exactement. Alors pourquoi aimer ce verger de marbre? C'est un roman, a priori le thème, on a l'impression de... Voilà, c'est qu'il y a une vengeance, une fuite. On a l'impression de l'avoir déjà lu ou presque. Mais en fait, voilà, Alex Taylor, dès son premier livre, c'est un grand auteur et il a une écriture très forte. Déjà, il manie très brillamment son intrigue, ce qui est quand même le moindre pour un polar. Et c'est aussi un roman initiatique. Mais l'initiation du héros, là, elle va se faire, disons, à marche forcée. Hein.
Bref.
Voilà, coup de poing, coup de crosse. Mais c'est surtout un roman qui, en plus de la superbe écriture, met en scène des personnages que, eux, là, on les a pas déjà lus. Les femmes sont très fortes. Elles sont tenaces, capables d'amour démesuré, capables de violence intense aussi, mais, pour la plupart d'entre elles, jamais de lâcheté. Les seuls à en avoir, par contre, c'est plutôt les hommes. Les hommes, eux, ils sont pas vraiment pleutres, mais ils sont capables des pires exactions, des pires ignominies, pour seulement essayer de parvenir à leur fin, finalement. C'est un roman où la violence des humains semble parfois vouloir contrebalancer l'hostilité de la nature environnante. Du coup, en fait, on ne s'étonne pas que l'auteur Donald Ray Pollock, dont on a parlé ici, adoube ce livre sur la quatrième de couverture, car c'est effectivement aussi son univers, même si c'est pas tout à fait
les mêmes endroits.
Les mêmes endroits, le Kentucky, c'est un peu voilà, c'est le sud des États-Unis. C'est un roman en fait donc qui va classer son auteur dès le premier dans les à suivre de très près. Et juste pour vous donner une petite ambiance du livre, deux courts extraits. Un pour l'ambiance. Bim posa ses coudes sur le bar. À une extrémité, un gros bocal en verre était à moitié rempli de ce qui ressemblait à des dents humaines. Un mot écrit à la main était scotché à la paroi du bocal et prévenait. Toute dent perdue dans le bar au cours d'une bagarre devient la propriété de l'établissement.
C'est un peu James Cromelien.
Voilà. Et un peu plus loin, là, il parle d'une des femmes, c'est la mère de Bim, qui s'appelle Derna. Et il la décrit, bon, elle semblait fragile à présent, brunie et desséchée, comme une fleur pressée dans une Bible, une revenante d'un âge tombé en poussière.
Voilà, un peu le côté ironique et le côté lyrique.
Voilà, et c'est marrant, c'est parce que... À la fois c'est violent et l'écriture est tellement belle que finalement la violence passe presque tout le temps.
Voilà, la plongée en enfer est douce, voilà. On va dire, c'est ça.
Donc c'est un roman de Alex Taylor qui s'appelle Le Verger de marbre, qui est paru dans la collection Néo Noir chez Gallmeister, traduit par Anatole Ponce.
Voilà, première émission de la saison 2016-2017 va s'achever. Donc,
17e année.
Donc on va vous dire au revoir, vous souhaiter de bonnes semaines, chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs.